Bonsoir à tous, merci de votre présence donc pour accueillir Marc Abeles, qui donc je dirais presque, enfin on n'aurait presque plus à le présenter d'une certaine façon. Il n'en est pas à son coup d'essai avec ce nouvel ouvrage paru donc très très récemment. Néanmoins bon, je vais quand même faire une petite présentation, ne serait-ce que pour mettre en perspective ces différents travaux, sachant et je demande toute votre votre approbation, enfin je sollicite votre approbation parce que je me sens un peu modeste, un peu humble à côté, d'une part parce que voilà, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup produit, et puis parce qu'en plus je suis historien et pas anthropologue, et donc je vais essayer de m'adapter, même si Marc Abeles est dans une perspective interdisciplinaire à travers cet ouvrage, puisque il est nourri en particulier de philosophie. Alors Marc Abeles, en quelques mots, c'est d'abord, il est directeur d'études à l'EHESS, directeur de recherche au CNRS. Alors, à l'origine, et je pense que c'est important de revenir un petit peu sur les premiers travaux du chercheur, parce que ça éclaire sûrement ce qui s'est écrit dans cet ouvrage. Donc, c'est un normalien, mais c'est surtout quelqu'un qui a fait sa thèse de troisième cycle à l'EHESS, déjà sous la direction de Claude Lévi-Strauss, sur le thème. Alors, je lis le thème, enfin le titre, c'est « Le lieu du politique, contribution à l'étude de l'organisation de l'espace du pouvoir et des rites dans une population Ometo d'Éthiopie méridionale », excusez-moi pour la prononciation au cas où, les Ocholo, voilà, je prends le risque, une thèse de troisième cycle sur cette question du lieu du politique, hein, ça c'est quelque chose de très très important, puisque c'est en fait ce dont il est question là encore, hein, dans cet ouvrage. Deuxième thèse d'État, cette fois-ci sous la direction de Marc Auger, toujours à l'EHESS, itinéraire en anthropologie politique, donc, où là il y a une comparaison toujours entre les Ocholo et, en l'occurrence, le département de Lyon. Donc là, une mise en perspective un peu déroutante, hein, bon, mais qui participe justement de ce travail de l'anthropologue et de son regard, hein, dont vous parlez d'ailleurs en conclusion, et vous y reviendrez sûrement, hein, de son regard un petit peu décalé, en quelque sorte. Finalement, à travers ça, déjà dans ces travaux-là, on s'aperçoit du lien très, que vous faites là, entre territoire et pouvoir. Hein. Là, il y a quelque chose, hein, ces deux concepts, l'articulation de ces deux concepts entre territoire et pouvoir est quelque chose d'assez déterminant dans vos premiers travaux. Alors là, bon, vous êtes donc un spécialiste d'anthropologie politique, tout le monde l'aura compris, mais donc vous avez écrit de nombreux ouvrages, je disais. Alors bon, on ne va pas tous les citer, ça serait un peu long, mais vous avez fait notamment sur le Parlement, hein, qui sont assez connus, sur l'Assemblée nationale, bon, sur le Parlement, enfin sur l'Europe, le Parlement européen, bon, donc des institutions comme ça qui ont été traitées, parce que vous êtes un anthropologue, je dirais, qui examine les sociétés occidentales et en mettant les choses en perspective. Et puis j'ai eu l'impression, finalement, en potassant un petit peu vos travaux, qu'il y avait un moment où, voilà, vous avez eu un petit tournant sur, vous êtes intéressé particulièrement à la question de la globalisation. Alors c'est d'abord les nouveaux riches, un ethnologue dans la Silicon Valley, hein, voyez, donc là on va explorer de nouvelles tribus. Et ensuite vous avez également d'autres ouvrages sur la globalisation, bon, politique de la survie, le spectacle du pouvoir, anthropologie de la globalisation, Pékin 798, ou des anthropologues à l'OMC, hein, d'ailleurs, que vous citez, hein, dans cet ouvrage. Donc finalement, on voit bien, hein, le déplacement d'une certaine façon, c'est-à-dire avec cette globalisation qui vient poser la question effectivement des lieux du pouvoir, toujours, et de la place de l'État. Hein, c'est effectivement l'objet de cet ouvrage, finalement, qui remet en cause le regard porté sur l'État, et en particulier sur sa centralité. Ça, c'est quelque chose, je crois, c'est ce qu'il faut, d'une certaine façon, retenir. Et donc, cet ouvrage vient un petit peu couronner, je pense, les travaux précédents sur la globalisation et ce tournant, parce que j'ai l'impression que vous faites œuvre de réflexivité à travers celui-ci, et que que vous essayez, voilà, de penser cette question de la centralité du lieu du pouvoir, de la centralité de l'État, à travers donc la philosophie. Alors avec d'ailleurs de façon circulaire presque, parce que il y a des actions et des rétroactions, c'est-à-dire que finalement c'est la philosophie qui s'est nourrie de l'anthropologie et l'anthropologie désormais qui se nourrit à son tour de la philosophie, des réflexions de la philosophie hein, que vous intégrez, de réflexions qui sont nées, ce n'est pas un hasard, dans les années 70, ça c'est l'historien qui revient sur le devant de la scène, c'est-à-dire finalement des pensées qui arrivent finalement dans un cycle où eh bien, on commence à critiquer l'État-providence, où on critique également le totalitarisme, hein, je pense aux nouveaux philosophes, bon, même si vous n'êtes pas du tout dans cette branche-là, mais vous voyez, il y avait une remise en question, en tout cas, de l'État dans les années 70, dont on a un petit peu le résultat aujourd'hui, en tout cas. Et donc, la globalisation, comment elle met en cause l'État. Et donc, maintenant, je vais vous laisser la parole, mais peut-être en commençant par une question pour vous lancer, d'une certaine façon, dans votre exposé. Finalement, pourquoi qu'est-ce que l'État vous a fait? Pourquoi en avez-vous appris l'État? Pourquoi faut-il penser au-delà de l'État? Pourquoi faut-il le remiser, d'une certaine manière, au placard de la recherche? Voilà, donc, c'est la première question.
Oui. Bah écoutez, merci d'abord de votre invitation et puis merci de cette présentation qui résume bien ce que j'ai essayé de faire depuis pas mal d'années et d'où s'ensuit évidemment cette question pourquoi ce titre penser au-delà de l'État, pourquoi cette préoccupation alors la réponse elle est double, disons que d'abord c'est vrai que j'ai eu le sentiment, en travaillant sur la globalisation, justement, que les choses avaient beaucoup changé et qu'elles impliquaient aussi une transformation en profondeur, disons, de notre approche du politique. Je veux dire par là que quand j'ai commencé à faire de l'anthropologie ou simplement de l'ethnographie de terrain, disons, on était devant des sociétés qui... soit effectivement se trouvaient isolés et dans des univers politiques séparés avec leurs propres institutions. C'est ce que j'avais étudié à Hocholo, où on avait une société sans centralisation, sans chef, etc., et uniquement avec des assemblées. Et ça fonctionnait, mais ça fonctionnait complètement en dehors, disons, du monde global. Et ce qui est frappant pour nous, qui avons vécu pour ma génération, disons, c'est qu'on a vu ces sociétés peu à peu rentrer dans ce monde global. On a vu notre objet complètement se transformer. Disons que par rapport à un historien, justement, qui aura travaillé sur la Révolution française ou l'Ancien Régime, bon, bah, l'objet, il reste le même, il ne va pas changer maintenant. On peut l'aborder de façon complètement différente de ce qu'on faisait autrefois, mais ça reste. Alors que nous, ce qui s'est passé, c'est que les gens avec lesquels on travaillait, les gens sur lesquels on travaillait, ils ont considérablement changé du fait d'être pris dans cet univers de flux, dans cet univers global, avec les processus de migration, avec les processus aussi de flux d'informations, etc. Et donc, c'est déjà une chose qui nous a beaucoup frappé. C'est pour la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre sur l'anthropologie de la globalisation. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Où est-ce qu'on en est et comment on se situe? Et avec quels outils, justement, on aborde ces questions? Ça, c'est une première chose. Et justement, l'un des points sur lesquels je travaillais, c'était le rapport du politique. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les instruments politiques dont on dispose sont encore pertinents par rapport aux transformations qui apparaissent? Et il se trouve que j'avais travaillé dans des institutions transnationales, hein, en particulier l'Europe, on en parle aujourd'hui, bon, c'est d'actualité. Mais enfin, c'est quand même une des grandes transformations, c'est le fait que progressivement, on a mis en place quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'État-nation tel qu'on a connu tout au long du XXe siècle. On est passé, et puis parallèlement, il m'a semblé qu'il y avait d'autres institutions dont on parle tout le temps, dont on se plaint, en particulier le FMI, on parle beaucoup du FMI, on parle de l'OMC, on parle, etc. Et il m'a semblé que c'était important de lancer aussi des enquêtes sur ces choses-là. On a fait une enquête collective sur l'OMC il y a quelques années. Et tout ça montre qu'il y a tout un plan de politique, toutes sortes de formes politiques qui se développent et qui ne sont plus pensables simplement en termes étatiques nationaux, comme on pouvait le faire il y a, disons, au siècle dernier, on peut dire. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une autre préoccupation, qui est une préoccupation, je dirais, un peu citoyenne, un peu politique. C'est aujourd'hui, justement, on n'arrête pas de dénoncer la politique. On se plaint de l'inadéquation, finalement, des pratiques politiques centralisées au vécu que nous pouvons avoir dans les sociétés en voie de globalisation. On voit apparaître toutes sortes de choses qui sont des expériences citoyennes, qui sont, je dirais, de l'ordre de ce que certains ont appelé l'infrapolitique, mais qui incarnent aussi des velléités ou même un désir, finalement, de s'émanciper de la forme politique unique que serait cet État-nation. Donc il y a un processus de débordement, je dirais, par le haut et par le bas, de l'État-nation qui est lié aux transformations actuelles. Et ça, on peut pas éviter, à un moment ou un autre, d'être concerné. Il y a ceux qui s'engagent politiquement et qui sont concernés parce qu'ils voient bien que ça tourne plus rond. On voit des élections qui n'arrivent plus à se faire, des gens qui se désintéressent. Il y a toutes sortes de symptômes. Des gens qui, au contraire, veulent s'investir, mais qui veulent plus s'investir dans les formes dans lesquelles on s'investissait. Et puis, il y a un problème plus profond. C'est de savoir effectivement de quoi sera fait demain. Et en particulier, on nous dit, c'est un discours, c'est ça qui a été un peu le déclencheur, je dirais, circonstanciel, c'est on nous dit finalement la seule protection aujourd'hui qu'on peut avoir contre tous les excès, tous les abus qui sont liés à la mondialisation, c'est l'État. C'est l'État qui peut nous protéger. C'est l'État qui incarne peut-être le dernier rempart par rapport à des processus que personne ne maîtrise plus. Et on nous dit, et on nous présente un État qui n'est plus l'État-providence, mais je dirais qu'il y a un État qui protège, ou c'est un État qui... Bon. Et ça, c'est une ligne politique qui est très développée, aussi bien dans des formations de droite ou de gauche, que chez les intellectuels également, et qui me semble assez dangereuse dans la mesure où je pense que... c'est une manière aussi... c'est une manière de dénégation de quelque chose. Je le vois comme ça. Et je pense que ça part, à mon avis, pas seulement de prise de position factuelle ou de, simplement de la pratique, mais ça parle aussi du questionnement intellectuel. Et ce que je voulais dans ce livre, c'est poser le problème justement en termes intellectuels et pas simplement en termes de stratégie. La question qui est abordée par ce livre, c'est comment on peut penser autrement les formes politiques. Et justement, pour ce faire, à un certain moment, il m'a semblé qu'il fallait penser au-delà ou à côté, ou bref, trouver un moyen de ne pas être victime de cette perpétuelle obsession de l'État-nation qui finit par tellement occuper le terrain qu'on ne voit plus rien à côté. Et donc, l'idée de ce livre, c'était de montrer, ben non, on peut penser autrement. Et il y a des gens qui l'ont fait. C'est justement, j'ai cherché... et je me suis référé, par exemple, à cette conjoncture des années 90, 70, hein, oui. c'est beaucoup plus ancien, et où à un moment, on a vu émerger toutes sortes de pensées alternatives après 68, et qui, justement, posaient, me paraît-il, de manière intéressante ces questions-là. Et donc, c'est une partie de ce livre est consacrée à quelque chose qui avait été lancé par justement un anthropologue. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on voit l'intrication entre anthropologie et philosophie. C'est qu'à l'époque, il y avait des grands débats entre anthropologues et philosophes, ce qui a ensuite totalement disparu, en tout cas en France. Et il y avait des grands débats. Il y avait des débats entre Sartre et Lévi-Strauss, bien connus, sur l'histoire, justement, sur le temps, etc. Et puis, il y a eu tout ce débat autour de cette idée qu'avait lancé Pierre Clastres, donc un ethnologue de ces années-là, à propos de ses travaux d'Amazonie sur ce qu'il a appelé la société contre l'État. C'était le titre du livre, et ce livre avait eu un très grand retentissement, bien au-delà du public spécialisé, je dirais, et des professionnels de l'ethnologie. Et ça a engendré des discussions avec des philosophes, et en particulier Deleuze et Guattari, qui ont écrit deux livres, L'Anti-Édipe et Mille Plateaux, à peu près 10 ans d'intervalle. Et dans les deux ouvrages, ils reprennent en fait la discussion avec Clastres, qui d'ailleurs entre-temps avait disparu. Mais voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se posait. J'ai pensé que c'était intéressant de repartir de là. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait que l'intérêt de l'anthropologie politique, c'était d'avoir montré, avec des positions différentes, hein. Il ne s'agit pas de tout amalgamer, mais disons qu'il y a eu un fait, c'est que sur le plan empirique, il a été démontré qu'il y avait des formes très diverses, justement, d'organisation politique qui ne passaient pas nécessairement par l'État. Et ça a été une des découvertes, je pense, les plus intéressantes durant le XXe siècle, à propos, par exemple, des sociétés segmentaires. Et c'est quelque chose qui est repris, justement, par Deleuze et Guattari, quand ils parlent de ce qu'ils appellent la machine primitive, etc. Bon. Et donc, c'était une question et c'était un challenge adressé à une philosophie politique qui s'était construite, en fait, historiquement, plutôt sur l'idée que la société politique, quand elle apparaît, apparaît avec une organisation qui est une organisation déjà très institutionnalisée, sur la base d'un contrat, etc. Enfin, toute la philosophie politique qui a été inaugurée à la fin du XVIIe siècle. Voilà, donc je ne sais pas si...
Si, alors peut-être pour revenir sur cette question de l'État, vous avez bien dit aussi un élément qui est important, c'est celui de l'État, c'est-à-dire l'État de nation, hein, c'est-à-dire c'est ça aussi finalement qui est posé. La question, et d'ailleurs vous parlez aussi du concept, disons, de souveraineté, que vous en faites la critique finalement, mais derrière ça, j'aurais une question que vous n'abordez pas forcément dans le livre en tant que tel, c'est de savoir finalement quid de la nation s'il n'y a plus d'État d'une certaine façon, vous voyez, comment repenser l'identité à partir de la fin de l'État qui organise la nation, qui en est le support.
Oui, je crois que le point d'abord sur la souveraineté est important, c'est-à-dire que là je me réfère d'ailleurs plutôt aux travaux de Michel Foucault, qui fait écho contre le concept de souveraineté. C'est quand même pas anodin. C'est-à-dire qu'il construit toute sa théorie dans une critique de l'État, mais qui est axée sur le concept et l'aspect juridique légal de la souveraineté, en montrant justement à quel point, finalement, ça a contaminé la théorie politique. Et lui propose de parler en termes de gouvernementalité. Il pose la question de l'exercice du pouvoir. Et justement, il dit qu'à partir du moment où on pose la question en termes de souveraineté, immédiatement, on construit une abstraction et on fige quelque chose. Et on le fige autour du souverain. Et la question du souverain, elle est hyper posée aujourd'hui. Là, je fais un rapide comme ça, de rapprochement. Mais c'est vrai que quand vous voyez ce qui s'est passé aux dernières élections municipales, excusez-moi de cette allusion, mais où les gens ont tout d'un coup dit qu'une partie des gens ont décidé de s'abstenir pour punir. Qui punissait ? Ils punissaient le souverain. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on arrive à des formes de centralisation telles que le vote devient une manière de s'en prendre très directement. Et c'est très dangereux parce qu'en fin de compte, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus simplement que cette représentation où vous avez le peuple et le peuple est souverain. Or, ce qu'essayait de faire Foucault dans ce point de vue conceptuel, c'était de montrer comment tout ça s'était construit et de montrer justement comment on pouvait penser des formes alternatives. Et là, il s'est référé aussi à Clastres, justement. Il y a un article très intéressant que je cite d'une conférence qu'il avait fait au Brésil, au début des années 80, 1980. Et dans cette conférence, justement, il montrait à quel point même la théorie structuraliste était contaminée par cette juridicisation, avec l'idée de prohibition, de loi, et au milieu, une espèce d'impasse sur l'exercice réel, concret, et la façon de penser cet exercice concret du pouvoir, et l'idée de pouvoir, finalement, qui est très importante. Donc tout ça, ça implique, disons, une démarche qui, alors, nous oblige à, je dirais, désolidariser aussi l'idée d'État-nation, la nation et l'État, enfin l'État comme étant... Alors l'État se circonscrit un territoire, c'est le monopole de la force sur un territoire déterminé, hein, souvenez-vous de Max Weber, et par ailleurs, il y a cette idée effectivement d'une identité qui serait immédiatement et simplement résumée justement... autour de la centralité de l'État, que la centralité de l'État serait, dont elle serait non seulement le reflet, mais qu'elle serait là pour maintenir. Alors, en même temps, il y a tout le temps une tension, c'est un peu comme avec l'idée de souveraineté, c'est qu'on soit bien que ça fonctionne jamais, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des mouvements centrifuges qui font qu'il y a des identités, et on arrive à créer un concept artificiel, enfin, qui s'est construit historiquement, qui est le concept de république, l'idée d'une unité, d'une unité républicaine qui permettrait justement de dealer, je dirais, avec les différences identitaires. Et puis on voit bien comment c'est très chahuté. Et on voit bien que la solution étatique centralisée n'est pas nécessairement n'est pas nécessairement la bonne. Je ne dis pas qu'il faille éliminer l'État. C'est pas le but de ce livre n'est pas de prendre des mesures draconiennes ou de donner un programme politique qui serait un programme, on dirait, anarchiste, etc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quand même de réfléchir sur la façon dont, à partir d'un certain moment, une vision des choses, une représentation parvient complètement à bloquer une situation. Quoi. C'est à force de penser quelque chose dans cette espèce de creuset république, nation, État, souverain, qu'on finit par se mettre à tourner en rond. Donc c'est un peu ça, ce mode de critique. Encore une fois, ça n'empêche pas que la nation s'est construite, qu'il y a toutes sortes d'éléments, les historiens sont là pour nous le montrer. Mais à mon avis, en tant que figure anthropologique, parce que l'anthropologie politique, le rôle de l'anthropologie politique, c'est pas simplement justement de faire une analyse factuelle. C'est aussi de réfléchir sur des formes et sur la compatibilité entre des formes politiques ou l'incompatibilité entre des formes politiques ou la possibilité d'en inventer des nouvelles. Donc c'est ça, et c'est effectivement assez ambitieux. Et c'est là que ça rejoint évidemment ce qu'essayent de faire les philosophes politiques.
Alors, vous avez parlé effectivement des mouvements centrifuges. On aurait pu reprendre un concept que vous évoquez également dans le livre, c'est-à-dire les lignes de fuite. Hein. Oui. Bon, ça revient à ça. Mais ça pose une question, c'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est le problème de l'abstention, c'est la question de l'État comme organisateur ou instituteur, disons, de la société aussi, à un moment donné. Donc, si l'État n'est plus à même hein, d'être cette instance réfléchissante de la société, d'une certaine façon, pour l'organiser... Il y a donc auto-institution à un moment donné nécessairement de cette même société, c'est-à-dire qu'elle va s'auto-créer d'une certaine façon sans passer par la médiation de l'État. Est-ce que vous auriez peut-être des éléments de réflexion là-dessus et en même temps des exemples, c'est-à-dire quel type de mouvements sociaux, oui. On va dire au sens large, peuvent s'identifier donc à cette auto-institution de la société ?
Alors ça, c'est... Pour aborder déjà la question... Je crois qu'il faut déjà partir de la situation dans la globalisation. C'est-à-dire que l'État est quand même assez débordé sur le plan de certaines fonctions qu'il a pu assumer à une certaine époque et qu'il voudrait toujours assumer. Par exemple, les projets d'industrialisation, on le voit encore récemment, c'est des choses qu'on voit pratiquement tous les jours, c'est la manière dont l'État n'arrive pas, même si avec un volontarisme tout à fait louable, il essaye de nous convaincre qu'il va arriver à éviter certaines fusions, en proposer d'autres et intervenir. Et nous, on a cette tradition d'un État qui était effectivement un État qui intervenait, qui avait les moyens de son intervention, et dans un système qui n'avait pas du tout la même nature, un système économique financier qui a complètement changé. Et je pense que la transformation, ce qui caractérise quand même fondamentalement la globalisation, c'est cette transformation complète du système économique financier dans lequel on se trouve. Et le fait que le pouvoir de l'État s'en est trouvé restreint. Et que là-dessus, moi, je ne vois pas de possibilité, même avec un énorme volontarisme, pour un État, disons, dans le sens traditionnel du terme, de pouvoir éviter de cette limitation. Donc il y a un affaiblissement. Il y a des fonctions protectrices de l'État qui continuent à fonctionner. On le voit avec tout ce qui est, le social, la sécurité sociale, enfin ce qu'on appelait l'État de providence. Il y en a une partie qui continue à fonctionner. Et puis il y a, disons, l'État en tant que qui s'occupe des frontières. Il y a certains disent au fond ce qui est le plus important maintenant dans un État comme le nôtre, c'est le ministère de l'Intérieur. Et ils disent en rigolant finalement, si vous voulez être président, il faut être à un moment ou un autre ministre de l'Intérieur. On verra. On l'a déjà vu d'ailleurs. Et donc vous voyez, ça serait assez typique. Alors il y a cet aspect, voilà, ce qui reste vraiment de l'État. Mais maintenant il y a une insatisfaction. Justement dans ce qu'on pourrait appeler la phase démocratique des choses. Et dans la phase démocratique des choses, c'est-à-dire qu'on a effectivement une institutionnalisation de la démocratie. J'ai étudié ces questions à propos de l'Assemblée nationale et surtout de la politique locale, quoi, qui est très importante, qui est très ancrée. Il y a tout un fonctionnement politique qui n'est absolument pas négligeable. Mais parallèlement, justement en raison peut-être des transformations économiques et sociales, on voit apparaître des expériences qui sont des expériences nouvelles. Il y a effectivement des expériences qui sont... Alors ça, c'est assez compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a des expériences qui se font, je dirais, au niveau de l'auto-entreprise et qui ont des incidences économiques. Il y a des expériences qui consistent à faire front contre certains abus de la globalisation, et c'est tous les trucs Occupy, indignés, etc., qui sont quand même importants et qui sont intéressant parce que de plus en plus, ils sont coordonnés, ils sont en réseau. Il y a tout l'aspect réseau, il y a tout l'aspect qui passe par Internet. Et ça, c'est une dimension nouvelle de ces choses-là. Et puis, la question qui est importante, à mon avis, c'est qu'il y a toute une partie de ces initiatives passe aussi par les ONG. Et ça, c'est pas seulement, là, je parle pas dans notre pays en particulier, mais c'est un peu la manière dont dans le monde, un certain nombre de questions face, disons, aux grandes organisations internationales, et notamment dans les questions humanitaires, dans les questions de développement, vous avez aussi tout ça. Et là aussi, il y a des grands débats à l'intérieur de ces ONG, moi j'ai pu en suivre, qui montrent bien que là aussi, il y a des visions différentes. Il y a des ONG qui se visent finalement comme des entreprises multinationales, pleines de compassion, etc., et qui sont pour des causes humanitaires. Et puis il y a des ONG qui se vivent comme peut-être des choses beaucoup plus proches du terrain et beaucoup plus... je les rapprocherais finalement de réflexions qui ont pu être faites. Là aussi, on revient un peu aux années 70 par des gens comme Castoriadis, c'est-à-dire sur la notion d'autonomie. C'est une notion, à mon avis, très importante. La notion d'autonomie, j'en parle pas du tout dans le livre, mais c'est un peu dans ce sens qu'on voit ces mouvements peu à peu. Alors, de là à parler de... Il y a des grandes discussions. Moi, je vois chez mes collègues des sociologues des hautes études qui travaillent là-dessus, il y a des grandes discussions, notamment dans les pays d'Europe méditerranéenne, en Espagne, où il y a pas mal de mouvements qui se sont mis en place compte tenu de la gravité de la situation, pour arriver à ce que c'est... Voilà, est-ce qu'on est dans le moléculaire, puisque pour reprendre l'expression de Deleuze ou Guattari, est-ce qu'on est dans le moléculaire, ou est-ce qu'on peut atteindre, disons, un niveau de coordination qui en fasse vraiment un mouvement, une dynamique et pour l'instant, à mon sens, on est dans un phénomène nouveau, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien. Si vous voulez, on a eu toute une vision du mouvement social où finalement il y avait toujours un moment de coordination, de centralisation, et il y avait le système des représentants représentés qui se alors que là, avec justement l'intervention des réseaux sociaux, les choses sont beaucoup moins gérées de cette manière-là. Et en même temps, sont beaucoup moins, entre guillemets, maîtrisables, contrôlables, centralisables, etc. Et ça, on est obligé d'en tenir compte. Prenez ce qui se passe. Moi, j'ai été à plusieurs reprises en Chine. Ce qui se passe en Chine, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que ce qui fait front le plus par rapport au pouvoir chinois étatique centralisé, alors là, on a été quand même très fort. C'est ces mouvements ou ces initiatives, mais qui sont justement en permanence très labiles, très, très flexibles. Et c'est ça qui fait en même temps leur force. C'est ça un peu le paradoxe. Bon, alors voilà.
Alors sur ce point, peut-être pour approfondir un peu là-dessus, hein, d'ailleurs c'était le concept aussi de rhizome, hein, par exemple, qui permettait de penser ces choses-là. Il y en a un autre sur l'effacement de l'État, l'effacement de ce centre, hein, parce qu'on est là, on est bien en fait sur des, je crois que il faut juste un petit moment de mise en perspective. On est sur des concepts, je dirais méta, c'est-à-dire vous dites bien là, on est au-delà, hein, cette dimension méta, c'est-à-dire on est au-delà, c'est-à-dire qu'on on est sur des niveaux de pensée qui sont vraiment, je dirais, très abstraits. C'est-à-dire si on est sur la question du centre, de la périphérie, mais aussi, du coup, même on sort de ce schéma-là, effectivement, à un moment donné. Et là, il y a peut-être, effectivement, vous avez dit je ne sais plus si vous l'avez dit, je ne suis pas sûr d'ailleurs, le mot réseau qui est important, je pense, parce que c'est ça, par cette construction en forme de réseau, finalement, qu'aujourd'hui, le déplacement des lieux politiques s'opère, voilà, d'une certaine façon, avec le problème de représentation.
Qui va de pair. Je pense qu'il y avait cette formule de Deleuze et Guattari qui disent l'homme est un animal segmentaire, qui est assez significative justement en prenant ce concept à l'anthropologie. Effectivement, ce sont des concepts assez abstraits mais en même temps, je dirais que c'est en même temps très concret. Enfin, ça touche à des choses et c'est pour ça que c'est important parce que ça aide à penser finalement. Ça aide à penser. Il faut faire à mon avis, si on n'arrive pas à faire ce détour, on est sans arrêt pris dans des conflits de stratégies politiques qui sont intéressants. Mais qui nous mène finalement à toujours les mêmes choses, c'est-à-dire des affrontements de courants, de sous-courants, et avec finalement en ligne de mire toujours la même chose, c'est-à-dire par exemple la prise du pouvoir d'État. Mais la prise du pouvoir d'État, est-ce que c'est ça qu'on veut maintenant? Est-ce que tout le monde l'a eu, le pouvoir d'État? Et voilà où on en est, on pourrait dire, si on était un peu... Non, mais je provoque un petit peu, mais surtout, ceux qui étaient le plus critiques justement par rapport au fonctionnement de cet État, quand ils ont occupé le pouvoir, finalement, ils ont été eux-mêmes pris dans cette machine. Et je ne les soupçonne pas de mauvaise foi, mais je dis simplement que à partir du moment où on ne peut pas penser autrement, évidemment, on est bloqué. Et vous me demandiez pour les réseaux, c'est évident que l'approche du politique par les rhizomes et tout, ça fait partie, ça s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Mais ça pose là aussi des tas de questions, parce que comment, justement, on n'est plus... c'est le contraire, je dirais, d'une politique identitaire. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que nous, justement, notre système fonctionne bien dans la mesure où, finalement, vous identifiez un territoire, une identité nationale... un État, et tout ça va de pair, et tout ça permet, et ensuite vous avez des échelons et vous avez un système de représentation qui vous va de la base au sommet. Si ça commence à ne plus fonctionner, donc il faut trouver autre chose. Donc on voit se mettre en place des choses, ne serait-ce qu'à cause de la crise économique, du chômage et tout, des initiatives alternatives. Mais elles font pas, elles peuvent pas tout de suite se donner, je dirais, un sens qui a un sens global, une consistance qui pourrait se substituer, disons, à la consistance nationalo-étatique. Ça, c'est évident. Donc, ça va d'abord transiter, ça va se chercher, en quelque sorte, et c'est là qu'effectivement, l'expérience des réseaux est importante.
Oui, voilà. Et au niveau de l'identité, c'est aussi le propre du réseau, c'est-à-dire qu'il peut établir à tout moment de nouvelles connexions, hein, c'est-à-dire et s'élargir, voilà. Du coup, s'élargir ou au contraire, oui. Se réduire à tout moment. Simplement pour...
Juste un point, enfin, mais oui, très rapide, c'est qu'à mon avis, justement, avec l'Internet et avec ces systèmes de mise en réseau qui sont très efficients, ont aussi eu une conséquence assez terrible, c'est qu'ils ont remis en pratique, ils ont complètement mis en cause l'approche naïve de la représentation qu'on avait, puisqu'ils sans arrêt ils vous révèlent ce qui se passe derrière, des trucs qui ont été prononcés, comment les politiques qui sont censés représenter sont en fait dans une totale duplicité. Enfin bref, il y a tout un aspect qui sape un peu, mais rien que dans son fonctionnement, la représentation au sens classique. Mais enfin bon, c'était une incidente.
Peut-être pour prolonger sur cette idée de centre, etc., il y a quand même quelque chose qui est assez marquant d'une certaine façon, c'est qu'on a beau effectivement avoir remis en cause l'État depuis les années 70, on a beau constamment parler de la mondialisation, de la globalisation, hein, vous faites d'ailleurs la distinction, hein, je crois, entre les deux, n'empêche qu'au final, on est toujours en train, d'une certaine façon, aujourd'hui encore, de se positionner vis-à-vis de l'État. Et même votre livre, d'une certaine façon, puisque dans le titre même du livre, il y a encore l'État. Est-ce que finalement, ce n'est pas la preuve d'une persistance, malgré tout, malgré ces déplacements, de la forme étatique ? Et quelles sont justement, quelle est la direction que prennent ces mutations ? C'est-à-dire, quel sera l'État, ou quel est l'État aujourd'hui, et quel sera-t-il à l'avenir, d'une certaine façon ?
Ça, c'est... Moi, je ne lis pas dans le marc de café par rapport à la... Mais je pense quand même d'une part qu'il ne faut pas éluder cette question de l'État. Elle est très importante et j'y accorde justement... J'avais écrit un livre, Anthropologie de l'État. C'est une question qui me... Mais justement, si on l'élude, c'est une façon, finalement, on le retrouve à un autre point, et surtout dans le type de société dans lequel on vit, notamment en France. Donc, et sur le problème entre les... Au niveau de l'Europe, par exemple, c'est bien évident qu'il faut... tout ça reste... demande à être sérieusement repensé. Maintenant, il ne s'agit pas... Encore une fois, moi, je ne pense pas du tout qu'il y aura une destruction, une implosion de l'État. Ça, personnellement, je serais vraiment... J'ai aucun élément sérieux, scientifique, qui permette de le dire. Je pense qu'il y a certaines fonctions qui continueront à être assumées par l'État. Mais il y aura effectivement un affaiblissement dans d'autres domaines. Je pense qu'effectivement, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'écologie, et là, c'est très important, la problématique écologique, parce que si vous prenez l'histoire de l'écologie, moi, j'ai suivi les débuts de l'écologie politique quand j'étais au Parlement européen, c'est-à-dire à la fin des années 80, ça remonte à un bail quand même, et c'est là que sont apparues les premières discussions très solides, disons, sur la question écologique et pas seulement sur l'environnement. Avant, on parlait toujours d'environnement, etc. Mais c'est devenu une question donc beaucoup plus importante avec, par exemple, l'apparition du concept de développement durable. Il faut quand même savoir que le concept de développement durable, et voilà, c'est typique, il n'est pas du tout apparu à l'intérieur du système étatique de l'État. Ça a été généré dans des organisations transnationales à un tout autre niveau. Et vous avez plein d'éléments qui concernent, moi, ce que j'appelle la survie, ce qui concerne finalement le quid de l'avenir, quid de la conservation de l'espèce et tout, que se posent assez crûment aujourd'hui les gens. Qui ne peuvent pas se traiter, tout le monde le sait, tout le monde le constate, même s'il y a énormément de blocages à cause des différences entre les États, mais ça ne peut pas se traiter sur le plan étatique. Donc, de fait, il y aura un élargissement, et la question est de savoir si, à un certain moment, on va assister à des phénomènes, je dirais, réactionnaires, violents, justement, de protection de l'État protecteur ou pseudo-protecteur, qui fait que ça va complètement bloquer et qu'il n'y aura pas possibilité d'articuler un peu les choses entre les éléments infra, supra et étatiques proprement dit, ce qui serait quand même plus souhaitable. Ou alors, justement, il y aura au contraire une réarticulation, une recomposition qui prendra un certain temps, mais qui est en fait en voie de s'effectuer, je veux dire, à travers pas mal de convulsions, et où l'État retrouve... aura une place. Je ne pense pas qu'il sera effacé de la carte. Ça dépend en plus des... Ça, c'est les historiens savent bien que ça dépend des situations, des pays, des cultures, etc.
Une dernière question sur... puisque bon, vous êtes en anthropologie politique, donc j'ai envie de vous poser la question de savoir quel est aujourd'hui ou comment vous concevez aujourd'hui le rôle de l'anthropologue dans la cité, justement.
Ça, c'est... c'est la vaste question. Je pense qu'un anthropologue ne peut pas s'exempter. C'est-à-dire qu'un anthropologue, c'est un métier très particulier. Parce que moi, je dis toujours aux étudiants, ce n'est pas seulement un métier, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que vous êtes impliqué. Dès que vous commencez à faire... je ne parle pas, bon, vous avez votre vie personnelle, etc. Mais en même temps, vous êtes souvent sur le terrain. C'est quand même une des spécificités, c'est le travail qu'on peut faire en tant qu'ethnographe. Et donc là, vous êtes confronté à des situations, vous êtes pris dans des situations, et à un certain moment, vous avez aussi votre parole. Et en fait, ce qui se construit en anthropologie, comme montrait par exemple Gérald Tabe, il montrait très bien comment, en fait, beaucoup de choses se construisaient dans le cadre de cette implication, où peu à peu émerge de cette espèce de confrontation qu'on est en permanence avec des gens dont les pratiques nous intéressent, sur lesquels on veut... C'est fini l'idée qu'on est des scientifiques complètement à distance et qui regarderaient ça comme du laboratoire. Moi, je pense qu'on est fortement impliqué et que c'est dans cette implication que se génèrent justement des concepts qui peuvent permettre d'expliquer, de penser des situations. Je dis, c'est un peu la différence, à mon avis, avec la philosophie. Sur certains points, la philosophie politique et l'anthropologie politique, c'est pas très différent, ça aborde les mêmes questions. Mais je pense que la grosse différence, c'est qu'étant pris dans ce réseau de pratiques, disons, on est amené à fonctionner dans cette sorte de commitment, d'engagement permanent. Et c'est très compliqué, c'est en même temps très compliqué à gérer. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on s'engage politiquement, etc. J'aurais jamais pu faire ce travail si je me présentais immédiatement comme engagé dans tel ou tel camp. Enfin, je parle de travail que j'ai pu faire en terrain, par exemple, dans la société française. C'était bien évident pas possible. Mais en même temps, il y a des moments où on est amené à donner à donner de la voix, en quelque sorte, et ça fait partie de ce métier. C'est toute la complexité. Et ça, il faut arriver à le restituer aussi dans ce qu'on produit. Et c'est pour ça que moi, j'ai écrit ce livre, parce que ce livre, il reflète en fait toute cette expérience. Je parle d'ailleurs de ce type d'expérience, mais ça reflète un petit peu le résultat de ces différentes expériences de terrain. Ce n'est pas seulement de la spéculation, comme on a tendance à le faire. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, même dans la politique française aujourd'hui, quand je l'entends à la télévision, dans les enceintes étatico-nationales, c'est qu'on a tendance à des débats qui finissent par être complètement abstraits et bizarrement métaphysiques sur le protectionnisme, sur le machin. Enfin, je veux dire, on est déjà dans une espèce d'enfermement et chacun a des positions et doit défendre des positions. Bon, et ça me pose parfois des réels problèmes.
On va arrêter là, vous remercier, vous inciter évidemment à acquérir le livre des éditions Belin au fond de la salle, et puis pour venir le faire signer, bien sûr. Voilà, merci beaucoup.